J'ai lu avec beaucoup de plaisir cette semaine un essai qui m'a été envoyé par un ami. J'espère que ces quelques mots lui feront comprendre tout le plaisir qu'il m'a fait en m'expédiant « L'aliénation linguistique » d'Henri Gobard, édité chez Flammarion. En sous-titre de « L'aliénation linguistique », il y a ce mot fort savant, mais ne soyez pas effarouchés, « analyse tétraglossique ». Ce livre arrive trop tard dans la bataille que nous avons livrée en Haïti pour la défense et surtout pour l'illustration du créole. Trop tard, parce que si la lutte continue, et elle ne peut que continuer, elle a été, par la force d'inertie du milieu, elle a été étouffée. Et la translation de ces objectifs renvoie à plus tard les vrais problèmes qui seront posés et qui ont été posés il y a quelques mois par certains. Ce livre de Henri Gobard arrive donc aussi trop tôt, selon moi, car il faudra dans quelques temps reprendre les thèmes qu'il évoque le long de son parcours, thèmes qui sont laissés en chemin, et dégrossir à nouveau tous les problèmes. À ce moment, nous pourrons en finir une fois pour toutes avec les mandarins. À ce moment, nous pourrons reprendre en un les arguments d'Henri Gobard et les retourner en notre faveur. Mais il faut entre-temps vous rendre compte de cet essai passionnant, parce que foncièrement passionné. D'entrée de jeu, l'auteur indique la couleur par une citation d'Antonio Gramsci. Si vous voulez savoir qui est Antonio Gramsci, allez donc voir dans une de nos salles de spectacle l'affaire Matteotti et vous le verrez, ce leader antifasciste, se battre de toutes ses forces contre la montée du fascisme en Italie. Eh bien, c'est cet Antonio Gramsci qui sert à Henri Gobard d'auteur pour l'épigraphe de son ouvrage. Antonio Gramsci, le théoricien marxiste italien, mort victime du fascisme, qui dit, et je cite, « La langue devrait être traitée comme une conception du monde, comme l'expression d'une conception du monde. » Vous voyez que nous sommes loin des exégèses dont nous avaient abreuvé les pseudo-marxiens fascisants, qui voulaient en faire, de la langue, une catégorie fixée une fois pour toutes des superstructures sociales, en fait pour défendre leur privilège de mandarin francophile. C'est donc à une étude de la Weltanschauung que nous convie Henri Gobard et à travers elle à ceux qui actuellement menacent cette vaste conception du monde. L'aliénation linguistique à laquelle il sera fait référence dans l'ouvrage est la manifestation d'une aliénation plus profonde que Gobard ne fait qu'effleurer. Ce n'est pas son propos. L'aliénation économique, l'aliénation par l'impérialisme. Mais ceci est une autre histoire sur laquelle nous aurons à revenir, nous-mêmes. Voyons toujours l'objet de l'essai sur l'aliénation linguistique. Henri Gobard a entrepris l'étude des mécanismes de l'impérialisme linguistique qui structurent l'impérialisme économique. L'analyse tétraglossique, qui lui sert de fil conducteur, est une étude qui permettra de se défendre dans une guerre culturelle camouflée en universalisme libéral. Ce qui est en jeu, ce qui est réellement en jeu, c'est l'identité culturelle, donc l'identité linguistique dans ses quatre dimensions langagières. Le vernaculaire, le véhiculaire, le référentiaire et le mythique. La distinction des quatre langues, ou plutôt des quatre fonctions du langage, permet ainsi à Gobard de proposer une genèse complexe qui va au-delà de l'étude de la diglossie à laquelle nous étions habitués, avec opposition d'une langue basse et d'une langue haute, d'une langue de pouvoir et d'une langue d'opprimé ou du peuple. Comment une langue prend-elle pouvoir dans un pays? Comment une langue peut-elle prendre le pouvoir à l'échelle mondiale? Par quels moyens conjurer le pouvoir linguistique? Disons l'oppression linguistique. Question de l'impérialisme de l'américain. Il n'a pas suffi que l'américain soit la plus grande langue véhiculaire à l'intérieur des circuits économiques et financiers. Il a fallu que cette langue se charge aussi de fonctions référentielles, de fonctions mythiques et même de fonctions vernaculaires. C'est ce que prouve Gobard dans son essai. Et ceci est extrêmement curieux car nous nous disions a priori en analysant le problème de l'américain dans le monde que ce n'était qu'une langue véhiculaire de plus, comme le latin, nous le verrons tout à l'heure. Mais Gobard nous fait remarquer une chose. Le western peut jouer pour un Français d'aujourd'hui le même rôle que le célèbre « Nos ancêtres les Gaulois » pour un noir d'Afrique. la chanson américaine, la publicité américaine joue un rôle mythique, un rôle de déclencheur onirique. Les argots d'anglais peuvent prendre, eux aussi, une fonction vernaculaire. Voilà donc ce véhiculaire qui se substitue au mythique, au vernaculaire et au référentiaire. L'essentiel de l'analyse de Gobard porte sur les dangers d'aliénation en France par l'invasion de l'Américain, porte sur la constitution de ce qu'il appelle le gallo-ricanisme, Étienne le disait le franglais. Bon, et même en Europe avec l'euro-ricanisme. Mais au passage, l'auteur analyse le laminage opéré sur des langues maternelles comme le yiddish ou le sicilien ou le corse par d'autres langues impériales à l'intérieur des minorités. Son propos cependant est clair. Situer le niveau de la lutte contre la nouvelle langue impériale et mettre en garde les Français contre son envahissement. Mais son propos est aussi incisif, beaucoup plus qu'Étienne, dénonçant le franglais, car Gobard détermine, avec une précision passionnée, les dangers que fait courir le gallo-ricanisme à l'identité culturelle française. L'anglais, dit-il, est une langue dangereuse, non seulement par son côté américano-dominant, mais aussi parce que c'est une langue presque latinisée, et que 50% de son vocabulaire ressemble étrangement au français. C'est aussi une langue trompeuse, une langue dangereuse, diabolique, le mot est de Gobard. Ce qui est grave, en anglais, c'est que lorsque l'on ne comprend pas, non seulement on ne comprend pas, mais on ne comprend pas qu'on ne comprend pas. Plus loin, il précise, l'anglais est comme le latin au Moyen-Âge, lien commun de toute la culture de l'Europe. L'anglais, par sa double étymologie saxonne et latine, et malgré les pièges diaboliques qu'il comporte, l'anglais peut parfaitement constituer cette seconde langue de communication indispensable dans notre monde moderne. Mais tout comme le latin était la langue de l'idéologie dominante de l'époque, à savoir l'idéologie de l'Église, de même l'anglais est la langue de l'idéologie dominante et par conséquent, le tête-à-tête devient dangereux. Gobard s'étend alors longuement sur la complaisance des universités françaises à se laisser envahir par l'américain, complaisance, disons même, complicité, qui va jusqu'à reléguer en France même, dans certains secteurs d'études, le français au rôle de langue seconde. À la lecture de ces passages révélateurs, nous sourions à la pensée des Français pris dans le même jeu que nous, mais avec cette différence que nous sommes, nous, soumis à deux langues impériales. L'une majeure, l'américain, et l'autre mineure, justement le français. Et Gobard cite un auteur italien, un cinéaste célèbre, mort hélas depuis, Pier Paolo Pasolini, qui se livre à une analyse de situation ressemblant étrangement à la nôtre. La citation de Pier Paolo Pasolini nous précise que cette aliénation culturelle n'est pas seulement dénoncée en France par Gobard, mais est aussi éprouvée en Italie. Pourquoi le génocide culturel auquel nous assistons, dit Pasolini? Parce que la classe dominante a nettement séparé les notions de développement et de progrès. Ce qui intéresse la classe dominante italienne, mais vous pouvez faire toutes les transpositions que vous voulez, c'est uniquement le développement et pas le progrès, parce que c'est du développement que la classe dominante tire ses bénéfices. On peut concevoir un développement privé de progrès, dit Pasolini, chose monstrueuse que vit les deux tiers de l'Italie. Le propos de Gobard se situe donc à l'échelle européenne, et il prend par moments une allure pédagogique lorsqu'il se débat dans les contradictions du professeur d'anglais en France. Faut-il ou ne faut-il pas se laisser tellement imprégné par la matière enseignée qu'on en devient ipso facto un instrument d'acculturation? Mais ces questions n'éloignent pas son pamphlet de sa fonction première, c'est-à-dire une lutte véhémente contre l'ethnocide auquel nous assistons aujourd'hui, le laminage puissant des cultures nationales par la culture impériale. Un livre pareil a une double utilité pour nous. Chez nous, nous ouvrir une fois de plus les yeux sur les deux dangers qui pèsent sur notre identité culturelle. Un danger mineur, celui que connaissait Léon Lalo sous l'occupation, être envahi par la langue américaine, mais un danger majeur, celui qui menace notre créole, colonisé par le français. Danger majeur, ai-je dit, car si le français est menacé en France, au Canada, en Louisiane, menacé par l'américain, en Haïti, il est menaçant, comme en Martinique, comme en Guadeloupe, comme au Sénégal. nous assistons, en fait, impuissants, à un phénomène curieux. L'anglais tend à devenir la langue véhiculaire mondiale, véhiculant ainsi l'impérialisme économique et politique. Mais la France veut constituer, elle aussi, un circuit second, un circuit mineur, un petit empire, vassal du premier, certes, mais à l'intérieur duquel elle ferait la loi. La question de langue, comme le disait Gramsci au début de l'essai, traduit toute une conception du monde, d'un monde déchiré par les contradictions de deux impérialismes, et ces déchirements n'ont pas fini de lacérer l'identité, l'individualité, nos cultures.